Emmanuel Tchibaou interpelle le ministre des Outre-mer lors de la séance des questions au gouvernement. Il s'en prend violemment au projet de fédéralisme interne porté par les loyalistes. Vous entendrez la réponse de Manuel Valls. Paris, où les discussions bilatérales sur l'avenir institutionnel se sont ouvertes, les loyalistes ont été reçus rue Oudinot. Sur quel domaine l'UNC interagit avec la société calédonienne? Avec nos invités, nous reviendrons sur l'étude d'impact présentée hier lors de la rentrée solennelle de l'UNC. En métropole, nouvelle attaque contre les forces de l'ordre. Un jeune Somalien a blessé 3 agents devant la préfecture de police de Paris. Faut-il interdire l'aspartame, potentiellement dangereux pour la santé? Le sujet est régulièrement évoqué et une pétition vient d'être lancée en métropole. Et puis le football et les premiers huitièmes de finale de la Coupe de France. La seule surprise a été créée par Dunkerque, club de Ligue 1, qui a sorti Lille, l'un des cadors de la Ligue 1. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. J'ai le sentiment d'un terrible retour en arrière. Ce sont les mots du ministre des Outre-mer pour qualifier la situation de la Nouvelle-Calédonie. Manuel Valls répondait à une question du député Emmanuel Tchibaou à l'Assemblée nationale quelques heures après avoir entamé les discussions bilatérales avec les partenaires politiques calédoniens, Elisabeth Noir.
Nous sommes face à un moment décisif, historique, a déclaré le ministre des Outre-mer, qui a rappelé qu'il avait effectivement engagé le jour même, à la demande du Premier ministre, des discussions bilatérales avec les partenaires calédoniens. Manuel Valls s'exprimait à l'Assemblée nationale lors de la séance des questions au gouvernement et il répondait au député Emmanuel Tchibaou qui conduit par ailleurs la délégation FLNKS à Paris. Le député de la seconde circonscription a interpellé le ministre des Outre-mer sur les discussions à venir sur la sortie de l'accord de Nouméa.
Cet accord inscrit au cœur de la Constitution française demeure aujourd'hui la matrice politique institutionnelle qui régit la Nouvelle-Calédonie. Il est le fruit d'un long processus. Initié en 83 à Neuville-les-Roches, où la société Kanak a choisi de faire socle commun avec l'ensemble des victimes de l'histoire, mais aussi tous ceux qui s'inscrivent dans la volonté de construire une identité propre à notre pays. Dans la continuité de cet engagement historique, les accords de Matignon-Oudinot ont posé les fondations d'une paix durable, amorçant une démarche d'émancipation politique, sociale et économique via la provincialisation et l'accès progressif pour les compatriotes ultramarins aux responsabilités. De ces accords ont découlé l'accord de Nouméa, qui a scellé la matrice institutionnelle unique en son genre, sui generis, reconnue par la communauté internationale. Cet accord marque l'exception démocratique française, un acte de courage politique auquel l'État s'est tenu avec constance, malgré les nombreux défis.
Mais curieusement, après ce rappel historique, Emmanuel Tchibaou s'est lancé dans un réquisitoire contre le projet défendu par les partisans de la Calédonie dans la France.
Nous savons que cette relation entre la Nouvelle-Calédonie et la France post-accord de Nouméa soulève des interrogations. Mais c'est ensemble que nous devons bâtir ce nouvel équilibre. Nous entendons les analyses de nos partenaires loyalistes. Après 40 ans d'histoire politique commune, nous ne sommes pas prêts à revenir en arrière. Nous redoutons que la vision proposée par certains qui prônent un fédéralisme interne exacerbé finisse par institutionnaliser une fracture territoriale et ethnique. Si nous acceptons une telle trajectoire, l'État contribuerait à créer un apartheid assumé, où Nouméa serait pensé en dehors du reste du pays. Imaginez Paris dissocié de la France pour des raisons ethniques. Dans une démocratie comme la France, pays des droits de l'homme, cela serait inconcevable.
À noter que le député n'a pas pu terminer sa question parce qu'il avait dépassé son temps de parole. Cela n'a pas empêché le ministre des Outre-mer de lui répondre en rappelant d'abord la situation d'une Nouvelle-Calédonie meurtrie. La Calédonie est à terre, déclare notamment Manuel Valls.
Nous sommes face à un moment décisif, historique. La Nouvelle-Calédonie est à terre, économiquement. Les dégâts liés aux violences et destructions de mai 2024 sont considérables, estimés à 15% du produit intérieur brut et à plus de 2 milliards d'euros. 37 000 Calédoniens sont plongés dans le chômage et l'avenir est donc très incertain. L'État soutient et soutiendra la reconstruction économique. Elle nécessitera des réformes profondes. La Nouvelle-Calédonie est meurtrie. Monsieur le député, vous le savez, le sang a de nouveau coulé. Et les fractures sont profondes. Elles paraissent même irréductibles. Et j'ai le sentiment, personnellement, d'un terrible retour en arrière. On parle de racisme, de guerre civile, de nouveau. Et pourtant, seul le dialogue permettra de reconstruire un projet commun et partagé.
Seul le dialogue permettra de reconstruire un projet commun et partagé, déclare Manuel Valls, qui appelle à être inventif, ambitieux, courageux pour bâtir un compromis et sortir des positions radicales.
Les accords de Matignon et de Nouméa avec la perspective du processus de décolonisation sont, oui, monsieur le député, le socle de nos discussions. Elles sont même, si vous me le permettez, mon ADN. Et nous ne devons rien oublier de Michel Rocard et de Lionel Jospin, de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Djibaou. Comme eux, il nous faudra être inventifs, ambitieux, courageux pour bâtir un compromis et sortir des positions radicales, de toutes les positions radicales, monsieur le député, et proposer un projet commun, donc, pour la Nouvelle-Calédonie, pour sa jeunesse, pour la concorde et pour la paix. Croyez-moi, c'est la mission que m'a confiée le Premier ministre, il vous l'a dit dans sa lettre, l'État prendra sa responsabilité et j'invite chacun à être à la hauteur de cette responsabilité.
Un propos très ferme de la part de Manuel Valls, qui connaît bien le dossier calédonien et qui appelle donc à trouver par le dialogue un projet commun et partagé.
Manuel Valls, qui quelques heures plus tôt, Elisabeth, avait débuté ses entretiens bilatéraux en recevant la délégation des loyalistes.
Oui, la délégation qui a été reçue la première hier soir pour nous par le ministre des Outre-mer. Des échanges qui se déroulent rue Oudinot en présence d'Éric Thiers, le conseiller du Premier ministre pour la Nouvelle-Calédonie. La délégation est composée du député Nicolas Metzdorf, de la présidente de la province sud Sonia Baquès, de Gilles Brial et de Brieuc-Frogier. Un premier rendez-vous qui a essentiellement porté justement sur le projet de fédéralisme territorial que les loyalistes tenaient à présenter au ministre des Outre-mer, indique Gilles Brial.
Au moment d'échange, notre objectif, c'était d'expliquer le projet qu'on porte, les loyalistes, qu'on porte également avec le rassemblement, et de l'expliquer en détail. C'est un projet qu'on porte pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et le ministre de l'Outre-mer avait besoin d'avoir ces échanges, de nous poser des questions précises sur ce projet. On a demandé également ce que l'État attendait de nous, donc on a pu avoir un bon premier contact.
Quel type de questions vous posez le ministre des Outre-mer ?
Sur la mise en œuvre de notre projet, sur son développement, sur comment on l'écrit dans la Constitution. Il avait besoin de réponses politiques et techniques pour le comprendre.
Les 6 délégations calédoniennes vont ainsi se succéder rue Oudinot, mais il n'y a pas vraiment pour l'instant de programme précis qui ait été rendu public. Manuel Valls souhaite toutefois les rencontrer une seconde fois quand il aura fait un premier tour des positions des uns et des autres. Et pour cette seconde séquence, les loyalistes iront avec la délégation du Rassemblement.
Là, il y a eu la première bilatérale. Le ministre reçoit l'ensemble des délégations une première fois. Et après, on fait un deuxième round de négociations, une deuxième bilatérale. Nous, on a demandé que la deuxième soit faite, les loyalistes et le rassemblement, puisqu'on porte le même projet, on travaille ensemble depuis des années maintenant et qu'on souhaite avancer ensemble. Donc, le deuxième rendez-vous avec le ministère de l'Outre-mer se fera dans ce format-là. En fin de semaine. Pour l'instant, ce qui est calé, c'est la fin de semaine sur l'agenda.
Et en marge de ces rendez-vous rue Oudinot, les délégations rencontrent également de nombreux acteurs politiques, et notamment le président du Sénat Gérard Larcher et la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, qui suivent de très près ces discussions bilatérales qui se déroulent à Paris.
Ces discussions bilatérales doivent donc se poursuivre au moins jusqu'à la fin de la semaine. Les groupes politiques participeront ensuite samedi matin à Bercy à une conférence économique à laquelle seront associés par visioconférence depuis Nouméa les maires de l'agglomération et les présidents des chambres consulaires.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. D'abord la réponse à la question d'hier. 14% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'à l'issue des discussions bilatérales, l'État fera une proposition claire pour l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont 86% à penser que ce ne sera pas le cas. Et puis voici notre question du jour. L'UNC a-t-elle raison de vouloir créer une filière sans SPO à Nouméa ? Si vous pensez qu'elle a raison, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. L'autre grand titre de l'actualité, c'est la météo avec cette nouvelle dépression tropicale faible qui approche au nord du territoire. TD06F devrait toucher la Calédonie demain, Nicolas.
Oui, sa trajectoire n'est pas encore connue avec certitude, mais le phénomène devrait longer la côte ouest. Initialement, les modèles prévoyaient qu'elle traverse la chaîne d'ouest en est. A priori, ce ne sera pas le cas. Météo France Nouvelle-Calédonie a prévu de faire un point de situation dans l'après-midi. En attendant, des vigilances ont été émises. Vigilance jaune pour des vents violents, pour un vent proche de 25 nœuds, avec des rafales jusqu'à 40 nœuds sur Poum et Bélep pour aujourd'hui et la nuit prochaine. Et puis une vigilance jaune pour des fortes pluies et des orages sur toutes les communes avec des averses localement orageuses circulant aujourd'hui et la nuit prochaine. Les cumuls les plus importants sont sur le nord, la côte est, la chaîne et la pointe sud, où ils peuvent atteindre 100 à 150 mm. Ce matin, sur Radio Rythme Bleu, le capitaine Alexandre Rossignol, officier de communication à la DSCGR, était notre invité du matin. Il a tenu à rappeler que ces phénomènes météo restent en dessous des seuils d'alerte cyclonique et nous restons donc sous le régime des vigilances météo.
Là, les dépressions qui s'enchaînent, elles sont juste sous le seuil, en fin de compte, de déclenchement cyclonique et peuvent générer des pluies et des vents. Alors, ça peut paraître un peu confus, je pense, pour certaines, parce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux des gens qui se posaient la question. Il y avait 2-3 tôles qui étaient envolées. Pourquoi on n'avait pas déclenché les alertes? Or, comme je rappelle, les alertes, il faut que ce soit une dépression tropicale forte qui va impacter la Calédonie. Il est vrai qu'une dépression tropicale modérée, voire faible, peut générer des dégâts. Hein, ça, c'est certain. Surtout, si elle est concentrée à certaines zones. À part rappeler la vigilance, il est vrai que les différentes couleurs, jaune, c'est plutôt l'appel à la prudence. Après, orange, c'est des consignes qui se rapprochent un petit peu du cyclone, mais il n'y a pas d'interdiction de circulation. La cessation d'activité, c'est cyclonique, et les vigilances, attention, il y a un phénomène, et du coup, soyez prudents, limitez vos déplacements, et là, c'est la responsabilité de chacun de s'assurer d'être en sécurité chez soi ou lors de ses déplacements.
Et les vents générés par les dépressions tropicales peuvent revêtir un caractère dangereux, notamment dans le contexte d'après-violence du 13 mai. Toutes les entreprises détruites n'ont pas encore été démolies et les tôles notamment peuvent représenter un risque.
Il y a encore pas mal de zones où il y a encore des tôles qui n'ont pas été démontées et donc ça peut générer un risque supplémentaire et créer des dégâts qui peuvent être importants. Donc là-dessus, il faudra être extrêmement vigilant. On va avoir des vents qui peuvent monter jusqu'à 90 km/h, donc il faudra aussi être très prudent là-dessus, et puis par rapport aux pluies.
Quel conseil on peut donner, par exemple, pour quelqu'un qui aurait eu son entreprise touchée ou quelqu'un qui aurait peut-être des choses dans son jardin à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire là dans les heures qui viennent?
Déjà, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est pas attendre que le vent soit établi pour aller sécuriser. Donc il faut, maintenant, pendant que c'est calme, anticiper, sécuriser son domicile, sécuriser son entreprise si on le peut, remettre des clous sur quelques tôles pour les sécuriser, les renforcer, les amarrer avec des câbles. Bon, je veux pas être alarmiste, on est quand même sur des dépressions tropicales modérées, hein. Cependant, il y a le facteur risque supplémentaire de par ces tôles et ces bâtiments détruits qui peuvent générer d'autres risques.
Le capitaine Alexandre Rossignol, officier de communication de la DSCGR, qui insiste aussi sur le fait d'anticiper la sécurisation des bateaux, dans les marinas notamment, en raison du risque de coup d'ouest. Pour lui, il est important d'anticiper tout et d'avoir notamment des lampes ou encore une lampe avec une batterie et des piles à disposition en cas de coupure de courant.
En bref, des agents de l'OPT victimes d'agressions sur marée. L'Office des postes et télécommunications a donc décidé de fermer toutes ses agences sur l'île à partir d'aujourd'hui. L'agence de Tadine, rouvrira demain, mais celle de La Roche, où des travaux de sécurisation doivent être effectués, restera fermée pour une durée indéterminée. Dans un communiqué, l'OPT condamne ces agressions récentes et rappelle qu'aucune violence à l'encontre de ses agents ne saurait être tolérée. Il est 11h43, une première pause dans ce journal. Dans un instant, nous parlerons de la semaine consacrée à la rentrée universitaire. A tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lonsvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Nettoyer les rivières, protéger les captages, installer des compteurs, sensibiliser les Calédoniens. C'est être acteur de la gestion de l'eau. Vous pouvez bénéficier du fonds de soutien à la politique de l'eau partagée. Plusieurs dispositifs existent. Plus d'infos sur le site eau.nc. L'eau est une richesse à partager. Ensemble, agissons pour la préserver.
Ceci est un message du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
C'est reparti pour une nouvelle année universitaire. Depuis lundi, l'Université de la Nouvelle-Calédonie accueille ses étudiants. Et ce matin, ce sont les étudiants de première année qui se sont rendus sur le campus de Nouville et de Baco.
Et oui, après une journée plus formelle hier, avec la rentrée solennelle effectuée en présence des institutions et de la présidente de l'UNC, Catherine Ries, les étudiants ont pu découvrir aujourd'hui leur nouvel établissement. Un changement de taille pour ces premières années qui sortent tout juste du lycée. Plus d'autonomie, une manière d'enseigner différemment, il va falloir s'adapter et cette situation est source de stress pour certains étudiants. Écoutez.
Un peu nerveuse, je pense, comme tout le monde. C'est un grand nouveau pour nous. C'est plus grand que ce que je pensais. On connaît pas trop l'endroit, mais c'est bon, on est ensemble pour commencer cette année et la finir ensemble, j'espère.
En vrai, heureusement, vraiment qu'on est ensemble pour pouvoir s'accompagner. parce que je pense que sinon, je vais pleurer si je restais là toute seule, quoi.
J'appréhendais un peu, mais sinon, ça va.
Il y a un peu de joie parce qu'on découvre tout ça. Un peu stressé parce que c'est un monde où on connaît rien ici, ça change du lycée. Mais en vrai, hâte de découvrir et j'espère que ça va bien se passer.
On nous a beaucoup fait peur en disant que on sera beaucoup, mais après, on va vraiment être tellement moins.
Est-ce que ça va changer du lycée?
Je pense, surtout que c'est des matières qu'on n'a pas forcément déjà abordées. C'est un peu stress par rapport à ça, de se dire que c'est un monde nouveau et qu'on ne connaît pas tout. J'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner.
Super stressée. Je suis à la tachycardie, là, à la limite. Hein. Mais ça va aller. Ça va aller. Ça
du stress. Une belle journée. Du stress chez les étudiants, mais chez les parents aussi. Nat et Jimmy ont déposé avec émotion leur enfant respectif ce matin sur le parvis de l'université.
Une nouvelle étape, un petit pincement au cœur quand même. Puis voilà, on les encourage. Il y a les copines, les copains, on les laisse là, il faut plus s'occuper de nous, quoi. Ils sont grands.
Ça me fait drôle parce que là, je ne veux pas le voir. Comme nous, on habite à Robinson. Il va dormir chez sa tante, enfin ma grande sœur. Et on ne va pas le voir de lundi jusqu'à vendredi. Et vendredi, je récupère. Parce que ça nous évite de faire des va-et-vient parce qu'on habite vers Boulary. Mais non, il passe dans la cour des grands. Hein.
Les deux prochains jours seront dédiés à l'intégration des étudiants avec l'organisation de compétitions sportives et d'une braderie solidaire. Viendra ensuite la rentrée et le début des enseignements pour l'ensemble des étudiants lundi prochain.
Et hier, lors de la rentrée solennelle, les responsables de l'UNC ont présenté une étude d'impact pour essayer de savoir comment l'UNC interagit avec la société calédonienne. Nous allons en parler avec les deux invités qui sont avec nous sur ce plateau, Samuel Gorouna, qui est le deuxième vice-président de l'UNC, et Florent Levavasseur, qui est consultant du cabinet Utopie. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur cette étude d'impact. Alors, avant d'essayer d'en voir quels sont les points principaux, Samuel Gorouna, expliquez-nous la démarche. Pourquoi l'UNC a voulu s'intéresser finalement à sa place au sein de la société calédonienne?
Alors, c'est vrai qu'il y avait deux objectifs principaux dans l'étude qu'on a commandée. Donc, effectivement, on voulait savoir notre impact socio-économique. Donc, en termes d'emploi, en termes d'achat, comment est-ce qu'effectivement on apporte à l'économie calédonienne. C'était un premier point. Et puis, un deuxième sujet qui est la transition écologique, quelque chose de très important aujourd'hui. On s'inscrit dans toute la démarche à l'échelle nationale de pouvoir prendre part également à la transition écologique. C'était important pour nous de réaliser du coup l'empreinte carbone également.
D'accord. Alors on va voir quels points ressortent de cette étude d'impact. Mais avant ça, Florent Levavasseur, vous avez mené les travaux de cette étude d'impact. Peut-être un mot sur la méthode, parce que le sujet tel qu'on l'a entendu est très vaste. Donc j'imagine que les choses n'ont pas été évidentes à mettre en musique.
Exactement. On a procédé par trois différents types de collectes. On a d'abord collecté les flux monétaires de l'université. Et le comportement des étudiants sur la dimension économique. On a aussi fait des entretiens avec des parties prenantes internes à l'université et externes, le gouvernement, l'ISEE, l'Institut statistique, etc. Et puis on a fait des revues documentaires pour éplucher, effectivement, s'approcher de la réalité du terrain et donner de la crédibilité à ces études.
Alors, on va essayer de dégager quelques points de cette étude d'impact. Vous l'avez dit, Samuel Gorouna, le premier thème, c'était l'impact socio-économique. Il n'y a pas vraiment eu, j'imagine, de découverte particulière dans ce volet-là de l'étude, parce que vous savez déjà un peu le poids socio-économique de l'UNC.
Alors c'est vrai qu'on s'attend à un impact qui soit significatif. Après, c'est vrai que le mesurer, c'est quelque chose d'autre, et c'était important pour nous d'avoir cette mesure par un cabinet extérieur. Et un chiffre effectivement qui nous a frappé, c'est 590 emplois soutenus. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous paraît important dans l'économie calédonienne, surtout aujourd'hui.
Soutenu, ça veut dire qu'il soit proche ou autour, qu'il gravite autour de l'activité de l'université.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on a des emplois directs. Donc nous, on a plus de 200 emplois directs, mais après, on a tout ce qui est indirect et induit par nos salaires, par les consommations et les activités des étudiants également. Donc voilà, c'est tout cet ensemble qui engendre ces 590 emplois.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire, Florent Levavasseur, sur la partie économique concernant les étudiants?
Alors les étudiants, ils ont un comportement économique qu'on a pu modéliser autour de 2,3 milliards de francs pacifiques. Ça correspond à une petite majorité de ces retombées économiques globales de l'université. On a pu modéliser quels étaient les étudiants boursiers, non boursiers, logés gratuitement, logés en résidence, etc. Donc on est allé creuser vraiment dans le détail ce comportement des étudiants. Peut-être qu'on peut aussi rappeler que l'université, l'UNC, c'est 80 à 90% des flux monétaires, achats ou salaires, qui restent en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est des choses qui nous ont aussi marqués positivement sur sur le taux d'ancrage local de ces flux monétaires et donc qui permet d'avoir une empreinte économique à 590 emplois soutenus, mais aussi à 6,9 milliards de francs pacifiques de contribution au PIB. Donc ça, ça représente un petit peu moins de 1% du PIB local. C'est important. Et c'est un petit peu comparable à ce qu'on observe dans les universités en métropole, par exemple, qui pèsent souvent autour d'un pour cent du département de présence.
Alors, vous avez aussi scruté l'action, en tout cas le rayonnement de l'UNC sur un certain nombre de secteurs. On peut penser évidemment au transport, on peut penser à la restauration. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont semblé particulièrement significatives ?
D'un point de vue sectoriel, c'est basé sur des tables statistiques de l'ISEE, hein, qui regroupe l'économie sur une douzaine de secteurs. On a évidemment le service rendu aux ménages, l'ensemble des prestations de ménages qui soutiennent l'université soutient l'ensemble de ces secteurs. L'administration, bien sûr, via les 212 personnes employées par
l'UNC. Directement, oui. Voilà.
Oui, au niveau sectoriel, il n'y a pas de grande surprise. La consommation et les achats de l'université sont dans des secteurs relativement classiques, hein, sur l'énergie, les industries, l'industrie agroalimentaire, qui sont soutenues par l'université.
Mmh. Un mot, Samuel Gorouna, sur la question de l'environnement et de l'impact carbone, parce que visiblement, c'est quelque chose auquel vous avez tenu, hein, dans cette étude d'impact.
Oui, effectivement, c'est une volonté de l'université de mesurer notre impact carbone. Alors, on est loin, dans le Pacifique, donc forcément, sur une petite île comme la nôtre, nos activités font qu'on va à l'extérieur, on prend l'avion, etc. Donc, ça fait partie de nos métiers. Et puis aussi, on est en Calédonie avec des réseaux routiers et des transports en commun qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, du coup, c'est vrai que c'était important pour nous d'avoir notre empreinte carbone, non seulement de nos activités en tant qu'enseignant-chercheur, de nos services, etc., mais aussi de ce qu'on génère avec les étudiants. Et c'est vrai que là, il y avait des éléments frappants qui ont retenu notre attention, notamment l'aspect transport, qui est le point le plus important, finalement, de nos émissions.
Il y a des chiffres concernant ce point-là, Florent Levavasseur ?
Oui, sur le bilan carbone au global. Hein, on a calculé que les émissions de CO2 émises par l'université et ses étudiants sont autour de 12 000 tonnes, 12,7 kilotonnes de CO2. Donc c'est conséquent, puisqu'on doit être dans une... Je rappelle qu'on doit être dans une trajectoire de réduction assez massive sur ce poids carbone, si on veut que la planète absorbe ce supplément que les hommes mettent dans l'atmosphère. À l'usager, c'est 3,4 tonnes par usager de l'université. Et ça, c'est deux à trois fois plus élevé que ce qu'on observe dans les autres pays ou en métropole. Et c'est ce ratio qui est assez, en gros, à l'image, hein, du poids carbone aussi de la Nouvelle-Calédonie, qui est deux, trois, quatre fois plus carboné, entre guillemets, que d'autres territoires.
Alors justement, Samuel Gorouna, cette étude d'impact permet d'avoir une sorte de photographie à un instant T, mais j'imagine aussi que ça va vous permettre de réfléchir à la mise en œuvre de politiques pour aménager un certain nombre de choses, peut-être pour réduire l'empreinte carbone quand c'est possible. Vous allez utiliser maintenant cette étude d'impact pour avancer et avoir des projets ?
Effectivement, pour nous, cette étude était importante parce que c'est un point zéro. Et on peut, à partir de là, effectivement, cibler plus nos améliorations. Alors, l'université, évidemment, on n'a pas attendu l'étude, hein, comme chacun sait, comme chaque institution. On essaie de faire des choses depuis quelques années. On a un chargé de mission auprès de l'université qui est chargé spécifiquement de la transition écologique et du développement soutenable. Donc, Maximilien Mathieu, qui a travaillé également avec nous sur cette étude. Et donc, il y a plusieurs aspects sur les bâtiments, sur l'écomobilité, également sur nos consommations d'énergie liées à la clim. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on essaie de mettre en œuvre à l'université depuis quelques temps.
Et bien sûr, l'étude a porté sur les campus de Nouville et de Bakou, hein, c'est l'ensemble du service universitaire.
Effectivement.
Hein, Florent Levavasseur.
Peut-être qu'on peut rappeler effectivement que les actions à mener doivent être majoritairement sur le déplacement, puisque les 12,7 kilotonnes sont émises à deux tiers par les déplacements, voitures et avions. Et donc, on a vraiment des actions fortes à mener sur ça. C'est vraiment le plus gros du bilan carbone. Ce sont les déplacements voitures, hein, à 4,5 kilotonnes.
En faisant cette étude d'impact, est-ce qu'il y a des secteurs que vous n'avez pas eu le temps de creuser, ou est-ce que vous avez découvert des choses en disant, tiens, là, on aurait peut-être pu aller plus loin, ou vous avez l'impression d'avoir quand même un travail relativement exhaustif?
Non, sur le bilan carbone, comme
en,
pour
en
la
général,
partie
en général,
hein. On a été relativement exhaustif. Le point central, c'est vraiment le déplacement des voitures qui pèsent, on le rappelle, hein, 200 à 300 grammes par kilomètre parcouru quand on prend sa voiture avec de l'énergie fossile. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut essayer de mutualiser dans les usages, covoiturage, etc., pour réduire cette intensité carbone. Sur la partie économique, on n'a pas été exhaustif dans la captation des retombées liées à tout ce qui est l'innovation, la recherche, la transmission de savoir, de connaissances, tout ce qu'impulse une université dans son territoire, qui n'est pas monétaire, entre guillemets. C'est plus dur à flécher. Quand on fait un achat, on peut vite suivre la monnaie dans l'économie. Quand c'est de la transmission de connaissances, d'animation de réseau, de l'innovation impulsée dans des secteurs d'activité locaux, ça, c'est plus dur à quantifier. Donc, notre étude d'impact économique, qui dit qu'on vous êtes en gros à 1% de l'économie locale, un petit peu moins, elle est prudente et non exhaustive, puisqu'on n'a pas tout reflété.
Samuel Gorouna, est-ce que cette étude est disponible pour le grand public, pour ceux qui souhaiteraient en prendre connaissance? Est-ce que vous réfléchissez déjà à une version 2, une actualisation dans les années qui viennent?
Alors, on a présenté l'étude donc auprès de tout le monde à la rentrée solennelle, et effectivement, comme on l'a indiqué tout à l'heure, notre objectif, c'est d'avoir un plan de transition écologique. Voilà, c'est pour ça qu'on a chargé de question là-dessus, et on va pouvoir renouveler ça va paraître pertinent pour pouvoir voir l'amélioration de notre empreinte carbone.
Elle est consultable, donc, cette étude d'impact, oui, sur le site de l'université?
Alors, pas encore aujourd'hui, mais ça va venir.
Merci en tout cas à tous les deux d'être venus dans les studios pour nous parler donc de cette étude d'impact réalisée pour connaître les interactions de l'université avec le monde qui l'entoure. Merci beaucoup.
Merci.
On passe à l'actualité militaire dans ce journal avec la fin ce matin sur la base navale à Nouméa, à la pointe Chalex, de la 29e promotion de la préparation militaire marine. Après 5 semaines de formation, les 50 jeunes filles et garçons, tous volontaires venus de toute la Calédonie, se sont retrouvés à 8h sur la place d'armes de la base navale pour la cérémonie de clôture de cette PMM, Lionel Sabot.
Oui, il y a 5 semaines, nous étions présents, vous vous en souvenez peut-être, sur la base navale pour la levée des couleurs, premier temps fort de ces 5 semaines de formation, lors desquelles les jeunes ont été totalement intégrés à la vie de la base Chalex. Le 6 janvier dernier, ce sont des jeunes un peu impressionnés, découvrant un monde nouveau que nous avions rencontré. 5 semaines après, ce sont 50 jeunes fiers de défiler devant leur famille que nous avons retrouvés. Parmi ces jeunes, le matelot Pierre Allier, qui va entrer en terminale dans quelques jours et qui a terminé cette préparation militaire marine major de promo.
C'est une fierté quand même, parce que bon, on a un peu travaillé, on y a mis un peu du sien. Ça a été une super expérience, ça a été super sympa d'aider les autres et tout, de voir tout le monde se tirer un peu la bourre pour la première place. Donc c'est super sympa, c'est une fierté.
Comment tu as vécu ces 5 semaines de PMM?
Bah, moi, je les ai trouvées très enrichissantes. J'étais content de venir tous les matins, même si c'était tôt. Et vraiment, l'esprit d'équipe, c'était super sympa. On arrivait, on était avec les copains. Même si c'était dur, fallait travailler, bah, on était content d'être là, quoi.
La suite pour toi, il y a des idées de s'engager peut-être dans une carrière militaire?
Oui, moi, j'aimerais bien devenir médecin des armées sur les bateaux. Donc, c'est pour ça. J'avais choisi de faire la PM justement pour venir découvrir l'armée dans ce projet-là. Parce que bah, je me suis dit, avant de m'engager, il faut peut-être quand même que j'ai un petit... Vu que personne dans ma famille sait à quoi ça ressemble, il fallait quand même que j'ai une petite vision de ce que c'est, et franchement, c'est sympa.
Et pendant ces 5 semaines de formation, les jeunes de la PMM ont été encadrés par des marins de la réserve opérationnelle, avec cette année une très belle histoire qui a lié le maître principal Michel, ancien fusilier marin, et l'une des stagiaires, Chloé Dubois.
J'ai une famille qui était dans la marine, ouais. Un commando marine même pour le débarquement, donc c'est assez important pour ma famille et moi.
Il y a 50 ans, c'est l'arrière-grand-père de cette stagiaire, Chloé Dubois, qui était mon premier commandant, et avec qui j'ai eu mon brevet élémentaire de fusilier. D'où l'émotion.
Ça crée un lien particulier avec Michel?
Oui, ouais. Quand même. Parce que, bah, il se souvient de mon arrière-grand-père, qui était très important pour lui et pour le débarquement. Et de me voir là, ça lui fait quelque chose.
Et symboliquement, c'est le maître principal Michel qui a remis à Chloé son insigne de la préparation militaire marine. La cérémonie de ce matin s'est déroulée sous le commandement du capitaine de vaisseau Julien Faure, le pacha de la base navale de Nouméa.
On avait des individus séparés qui sont rentrés, et au bout de ces 5 semaines de préparation militaire marine, on voit qu'on a un bloc qui est de la cohésion, qu'ils ont développé un esprit d'équipage, ils sont un peu transformés, ils ont appris plein de choses, ils ont eu des expériences un peu différentes de ce qu'ils font au quotidien. quand je les revois tous là encore en ce moment en groupe, je me dis que en fait c'est un pari qui est gagné, c'est-à-dire qu'on a créé un petit équipage préparation militaire marine, encadré par des réservistes qui eux ont travaillé dans le civil et prennent de leur temps pour les encadrer, pour les instruire. Et ils ont fait cette cérémonie de clôture de la préparation militaire marine sous l'œil vigilant et attendri des anciens combattants et des drapeaux d'anciens combattants. Et tout ça là, je pense que c'est un beau cocktail de ce lien entre la nation, les armées et puis cette jeunesse.
Et la 29e promotion de la préparation militaire marine est donc terminée. Promotion baptisée Huon de Kermadec, dont la devise était « Marin un jour, marin toujours ».
Il est midi une. Après la pause, on verra ce qui fait l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
Savez-vous qu'il faut nettoyer régulièrement les filtres et effectuer au moins une fois par an l'entretien de votre climatiseur? Fermez les fenêtres et portes dans une pièce climatisée pour se prémunir de la surconsommation de l'énergie.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays. Économisons l'énergie.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda.
Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059. Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole et dans le monde, on retrouve Jean-François Baudin. D'abord la métropole où les forces de l'ordre ont été une nouvelle fois prises à partie. Un homme muni d'un morceau de verre s'est attaqué aux fonctionnaires positionnés devant la préfecture de police à Paris. Il a fait 3 blessés légers. L'agresseur, un jeune Somalien sous OQTF, a été interpellé. Le récit des faits avec William Molinier pour Europe 1.
Selon plusieurs témoins, l'assaillant a crié « Allahu Akbar ». Avant de fondre, morceau de verre à la main sur des policiers en patrouille de la brigade des réseaux franciliens. Il a tenté d'arracher le pistolet de l'un d'entre eux. Il a fallu des renforts, au total 6 fonctionnaires pour le maîtriser. Plusieurs policiers ont été légèrement blessés. L'un souffre d'une coupure à la main, un autre a une fracture à un doigt, selon le parquet de Paris. Le suspect, âgé d'une 20aine d'années, dit être de nationalité somalienne. Il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il a été conduit au commissariat où un psychiatre doit l'examiner. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Paris. À ce stade, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de cette affaire, mais reste en observation de la procédure.
Les attaques contre les forces de l'ordre sont fréquentes et souvent perpétrées par des personnes en situation d'immigration illégale, ce qui illustre un profond dysfonctionnement du système, estime Maître Thibault de Montbrial. Il est avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure.
C'est un jour sans fin, c'est-à-dire qu'on a très régulièrement des événements qui sont considérés comme des incidents, mais qui sont en réalité des véritables attaques. C'est un djihad d'atmosphère, c'est l'espèce de guerre à bas bruit qui est menée à l'Occident en général et à la France en particulier. L'Europe est endeuillée quasiment tous les jours par des attaques de cette nature. C'est le produit à la fois d'un effondrement de l'autorité, d'une immigration non maîtrisée, d'une partie d'un sujet psychiatrique propre qui est également un véritable problème, mais qui n'existerait pas si les sujets précédents étaient maîtrisés, et qui nous amène lentement mais sûrement dans une situation chaotique.
Maître Thibault de Montbrial, avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. À propos d'immigration, les chiffres montrent une année 2024 marquée par la reconduite hors des frontières de 21 600 sans-papiers, ce qui représente une hausse de 26,7% par rapport à l'année précédente. La délivrance des premiers titres de séjour a également augmenté pour atteindre 336 000 demandes accordées. Pendant ce temps-là, les policiers du syndicat Alliance ont manifesté devant l'Assemblée nationale la nuit dernière pour nous. Manifestation pour demander plus de moyens, alors que le budget consacré à la police dans le budget de la France n'augmente pas suffisamment, estiment les manifestants.
On a des salaires en berne depuis maintenant plusieurs années. Nos difficultés au niveau logistique et au niveau opérationnel sont devenues trop importantes pour qu'on laisse passer ce problème-là.
Le ministre de l'Intérieur qui est venu à la rencontre des manifestants a été bien accueilli. Des paroles rassurantes, disent les policiers, qui attendent maintenant des actes concrets. C'est un sujet santé qui revient régulièrement. L'aspartame est-il dangereux? Cet édulcorant censé remplacer le sucre dans de nombreux produits, notamment les boissons énergétiques, est même classé potentiellement à risque par l'OMS. Une pétition vient d'être lancée en métropole pour demander son interdiction. Mathis Lange pour Europe 1.
À première vue, l'aspartame jouit d'une bonne image, celle de l'édulcorant artificiel qui remplace le sucre, réputé mauvais pour la santé. Pourtant, l'additif est aujourd'hui pointé du doigt, là aussi, pour son possible impact sur la santé. Emmanuel Ricard, porte-parole de la Ligue contre le cancer, qui co-rédige la pétition.
Le CIRC, qui est le Centre international de recherche contre le cancer, a reclassé l'aspartame comme cancérogène 2B. Même si le risque, pour certains, est considéré faible, on considère qu'il y aura des gens qui seront atteints de cancer par rapport à ça.
Autre problème, selon Camille Doriot, responsable de campagne chez Foodwatch, l'édulcorant ne tiendrait pas ses promesses concernant la consommation de sucre par ailleurs.
L'aspartame, comme tous les édulcorants, ne permettent pas de réduire son apport calorique sur le long terme. Bref, il ne sert pas à grand chose et il comporte des risques de développer des maladies cardiovasculaires ou encore de développer du diabète de type 2.
Ce soir, plus de 20 000 personnes ont signé la pétition. De votre côté, si vous souhaitez repérer les produits qui contiennent ce faux sucre, il vous suffit d'identifier la mention E951 sur l'étiquette.
L'actualité à l'étranger en bref, et la Suède a connu l'une des plus terribles tueries de son histoire. Un homme a tué une dizaine de jeunes adultes dans un centre d'enseignement pour jeunes personnes. Le tireur a été abattu par les forces de l'ordre sans que l'on sache quelles étaient ses motivations. Et puis aux USA, Donald Trump reçoit le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le premier dirigeant étranger à être reçu à la Maison-Blanche depuis l'investiture de Donald Trump. Il s'agit de préparer la deuxième partie du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Midi 6, la dernière pause de ce journal est dans un instant, c'est l'Actu Sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Vous cherchez votre futur chez vous ? Caillard et Cadour Immobilier a ce qu'il vous faut. Ne manquez pas la journée portes ouvertes à la résidence Le Lys Rouge ce samedi 8 février de 8h à 12h30. À cette occasion, profitez d'un mois de loyer et des frais d'agence offerts. F2 simple ou en duplex et F4 de standing, venez les visiter, rêver et imaginer votre nouveau chez vous. Plus d'infos sur Facebook ou au 24 24 24.
Des piqûres regroupées ou alignées sur votre peau qui vous démangent, ce sont des punaises de lit. Pensez Formula 4D, les punaises maîtrisées par une équipe appliquée. Info sur formula4d.com.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
On va commencer avec le football. On jouait ce matin en effet le début des huitièmes de finale de la Coupe de France et trois matchs étaient au menu ce matin, Lionel Sabot.
Et au programme notamment ce matin, un derby du Nord, puisque Lille, club de Ligue 1, affrontait Dunkerque, club de Ligue 2. Et ce sont les Dunkerquois qui ont créé la surprise en éliminant le voisin lillois, pourtant quatrième du classement général de la Ligue 1. Les Dunkerquois qui sont revenus du Diable Vauvert, menés au score à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Ils ont égalisé au bout du temps additionnel. Lors de la séance des tirs au but, les Dunkerquois ont manqué leurs deux premiers tirs avant finalement de s'imposer 5 tirs au but à 4. Dans les deux autres matchs, la logique des divisions a été respectée. Brest, qui évolue en Ligue 1, est allé s'imposer 2 buts à 1 sur la pelouse de Troyes, qui joue en Ligue 2. Enfin, le Paris Saint-Germain est allé l'emporter sans surprise 2 à 0 sur la pelouse du Mans, qui joue en National. C'est l'équivalent de la 3e division. Suite de ces 8e de finale de la Coupe de France demain et vendredi matin pour nous. À suivre demain matin, Saint-Brieuc-Nice, Toulouse-Guingamp, Caen-Cabourg et Strasbourg-Angers. Vendredi matin, Bourgoin-Jallieu, c'est dans l'Isère, recevra Reims, c'est dans le Champagne.
Allez, on va parler tennis. C'est le numéro 3 mondial qui s'est qualifié dans la douleur pour le deuxième tour du tournoi ATP 500 de Rotterdam. C'est en Hollande.
Oui, et c'est un Espagnol, le numéro 3 mondial, Carlos Alcaraz, qui a dû batailler 3-7 pour s'imposer sur le Néerlandais au nom très exotique de Botik Vandeschoop, qui avait bénéficié d'une carte d'invitation pour ce tournoi. Alcaraz qui l'emporte au final 7-6, 3-6 et 6-1. Toujours à Rotterdam, à retenir la victoire de l'Australien Alex de Minaur sur le Belge David Goffin. Victoire en 2-7, 6-2, 6-4. Ça passe également pour le Danois Holger Rune qui s'est imposé 7-6, 6-4 sur l'Italien Lorenzo Sonego. Et puis décidément, la semaine est bien compliquée pour le tennis français. On vous parlait hier des éliminations dès le premier tour de leurs tournois respectifs d'Adrien Manarino, d'Harold de Maio et de Caroline Marcia. Ce matin, c'est une autre Française qui s'est faite sortir dès le premier tour du tournoi de Cluj. C'est en Roumanie. Varvara Grasheva s'est inclinée en 3-7 devant l'Américaine Peyton Stearns. Score final de 6, 6-2 et 6-2.